chorégraphe Crystal Pite. Avec 8 danseurs sur scène, soyez transportés dans une réunion où réalité et reconstitution médiévale se confondent. Des forces anciennes s'éveillent et l'enjeu de l'Assemblée devient bien plus important. Assembly Hall de Kid Pivot du 14 au 16 décembre au Diamant. Rabais de 25% pour les étudiants. Billets disponibles sur lediamant.ca.
Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi, 21h.
Bonjour Québec, ici Jimmy Lajoie-Boucher pour CKIA 88.3 et voici votre bulletin d'information. Le BAI, un organisme de défense des locataires, revient à la charge ce matin. L'OBNL demande à l'administration Marchand d'empêcher les conversions de résidences privées pour aînés en immeubles réguliers. Pour l'année 2023, selon le BAI, ce seraient des centaines de locataires aînés qui auraient été évincés pour que leur RPA soit converti en immeuble locatif régulier. Une situation que dénonce bien entendu l'organisation et demande par la même occasion à l'administration Marchand d'utiliser le zonage pour protéger les RPA en interdisant le changement d'usage associé à ce type d'établissement. La galerie TNT présente l'exposition Collectif 9 depuis le 13 décembre et ce jusqu'au 26 janvier 2024. C'est donc 7 artistes qui exposent leurs œuvres pour cette occasion. Le vernissage, quant à lui, se déroulera aujourd'hui sous la forme d'un 5 à 7. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de la galerie, galerietnt.com, ou encore la page Facebook de Galerie TNT. La Ville investit 2,8 millions de dollars dans la télémétrie pour son déneigement. Le système de télémétrie permettra de suivre en temps réel les véhicules de déneigement de la ville afin d'en récolter les données. Annoncé hier par la Ville de Québec, cette mesure viserait à optimiser le parcours, réduire les émissions de gaz à effet de serre et minimiser les coûts opérationnels liés au déneigement. C'est avec la firme NSIM Technologies que la municipalité s'associe pour la location d'une solution pour télémétrie véhiculaire. Le contrat débutera le 1er janvier 2024 pour prendre fin le 31 décembre 2027. La Ville annonce que le déploiement de ce système se fera de façon progressive. Il devrait aussi faciliter le respect du règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds. Celui-ci oblige les conducteurs de véhicules lourds à faire un rapport de leurs heures de travail, de conduite et de repos. L'Aube-Rivière améliore sa capacité d'accueil. Le refuge passe donc de 101 lits à 113 dès ce mois-ci. Un investissement gouvernemental a permis d'améliorer la capacité d'accueil du refuge. Depuis octobre, l'organisme communautaire a dû mettre les bouchées doubles pour embaucher du personnel qualifié, formant l'équipe de travail du transitoire. Des intervenants spécialisés œuvrant dans d'autres secteurs ont levé la main pour relever ce nouveau défi. Des gens ont également été engagés pour occuper des postes existants à combler. C'était votre bulletin d'information sur CKIA 88.3, rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local.
Toute simplicité. Durant plus de 5 ans, je m'entretins ainsi en vivant uniquement du travail de mes mains et constaté qu'en travaillant environ 6 semaines par an, j'arrivais à couvrir le coût de ma vie dans sa totalité. Mes hivers entiers ainsi qu'une bonne part de mes étés étaient libres pour l'étude. Pour dire les choses simplement, je tiens pour certain, tant par conviction que par expérience, que pour l'homme, subsister sur cette terre peut être bien davantage un passe-temps qu'un problème, pour autant qu'il veuille bien vivre de façon simple et sage. Nul homme n'a à gagner sa vie à la sueur de son front, sauf si la sueur lui vient plus facilement qu'à moi. Ayant hérité de quelques acres de terre, un jeune homme de mes connaissances me dit qu'il envisageait volontiers de vivre comme je vivais moi, s'il en avait les moyens. Je ne souhaite en aucune façon qu'aucune personne adopte mon mode de vie pour quelque raison que ce soit, car, outre le fait qu'il se pourrait fort bien que le temps que cette personne apprenne vraiment à vivre comme je l'ai fait, j'eusse trouvé moi-même un nouveau mode de vie. Mon vœu est qu'il existe en ce monde autant de personnes différentes que possible. J'aimerais au contraire que chacun mette grand soin à découvrir quel est le mode de vie qui lui convient en propre, puis à mener les actions nécessaires pour le mettre en pratique, plutôt que de copier celui de son père ou de sa mère ou de son voisin. Ce jeune homme peut bien construire ou semer ou s'en aller voguer sur toutes les mers du monde, tant que rien ne l'empêche de faire ce qu'il me dit vouloir faire. Comme celle du marin ou de l'esclave fugitif gardant le regard fixé sur l'étoile polaire, notre sagesse ne tient qu'à la vertu d'un cap mathématique. Mais ce point de mire est un guide suffisant pour notre vie entière. Il se peut que nous n'arrivions pas à bon port en un temps calculable, mais nous nous efforçons de rester sur le bon cap.
Avec mon jardin de haricots, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir. J'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs, 22 sous pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout, j'en ai pour 8 dollars et 60 sous. Oh, 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 simplifier, 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 oh, simplifier, oh, oui. Il m'arrive souvent d'aller pêcher aux rivières qui veulent bien me donner. Même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Simplifier, oh simplifier, oui simplifier. J'ai regardé dans ce pays ce que j'ai trouvé, m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. Trop de malheurs, trop de couteaux, trop d'objets, de fardeaux, trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis, trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité, trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. C'était Richard Séguin de son album Retour à Walden, simplifié. Avant ça, je vous ai lu, comme à l'habitude, un extrait de Walden, d'Henri David Thoreau, qui parlait des modes de vie. Les modes de vie, c'est notre thématique au comité Simplicité volontaire là, des Amis de la Terre. C'est notre thématique pour l'année qui vient. Et on a déjà eu une activité en lien avec ce thème-là dernièrement avec les gens du Cohabitat de Neuville. On va avoir une autre activité en lien avec eux autres. Alors, c'est un mode de vie qu'on appelle alternatif. Puis on a une activité au début janvier, le 11 janvier. En passant, là, je vais prendre une pause les deux prochaines semaines, donc les émissions recommenceraient là, en janvier. Et on aurait des reprises là, pendant les deux prochains vendredis. Donc, le 11 janvier, Café philosophique au Mot de Tasse. Et le 27 janvier, ou le 27 février, excusez, je pense que c'est le 27 février plutôt, on aura un cercle de discussion aux Amis de la Terre, au Centre Frédéric Bach, sur justement les modes de vie, l'évolution des valeurs en lien avec les changements de mode de vie. Ce sera un cercle de discussion avec notre invité, c'est Michel Pigeon. On en a déjà parlé, on l'a eu en émission dernièrement, qui a écrit un livre, Les jeunes et les changements climatiques. C'est sur l'évolution des valeurs. Puis on aura d'autres activités en cours d'année, là, qui, en lien toujours avec le thème des changements de mode de vie. Maintenant, pour ma revue de presse de cette semaine, quelques articles du Devoir, notamment la semaine samedi dernier, cahier sur les 75 ans des droits de l'homme. C'est le 10 décembre 1948 que l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. En tout cas, c'est un événement important. Les droits de l'homme, c'est comme une boussole qui nous aide, mais à nous, l'humanité en général, pour dans nos façons de faire, nos valeurs, nos principes, pas toujours respectés, mais en tout cas, c'est une boussole. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce sont sur ces mots simples, mais catégoriques, que s'ouvre l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui célèbre cette année ses 75 ans. Malgré les guerres, les tortures et les exactions de toutes sortes qui n'ont pas cessé de décimer l'humanité depuis, elle demeure pertinente et utile, selon des experts en droits de la personne, car elle continue d'incarner le standard sur lequel tous se sont entendus. Alors, c'est un petit cahier spécial, c'est dans le Devoir de samedi dernier. J'ai lu aussi un texte dans le dernier numéro. Je ne sais pas s'il y a un nouveau numéro qui est sorti peut-être. Là, c'est le numéro du Courrier international du 30 novembre au 6 décembre. C'est un article qui parle la crise qui vient. Et nous, le riz n'est pas la base de notre alimentation, mais pour une grande partie de l'humanité, plus que la moitié, le riz, c'est la denrée de base. C'est ce que les gens mangent à chaque jour. Et le dérèglement climatique, la croissance démographique, les tentations protectionnistes depuis cet été, raconte le Financial Times, tous les signaux sont au rouge et laisse penser que la crise alimentaire à venir sera équivalente à celle de 2008 qui avait conduit à des déboursements politiques, voire pire. Alors, c'est les changements climatiques qui ont eu un impact, entre autres, sur la récolte en Inde. Puis l'Inde, c'est le principal exportateur de riz dans le monde. De nombreux pays comptent sur les exportations de riz qui viennent de l'Inde pour s'alimenter. Et là, en Inde, étant donné l'inquiétude qu'on a sur la capacité peut-être de pouvoir nourrir leur propre population, bien le premier ministre Modi a décidé d'interdire ou d'arrêter les exportations de riz en Inde. Donc, c'est inquiétant. On va voir. Là, en tout cas, c'est tout un plusieurs pages, un article dans le dernier courrier international, la crise du riz qui s'en vient. Et ben voilà, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais moi, ça a attiré ma attention. Maintenant, dans le devoir de mercredi, on a un article de notre ami Jean Nollet qu'on a eu ici en entrevue il y a quelques semaines, justement du Cohabitat de Neuville. Jean Nollet était à la COP 28 et ça fait plusieurs COP auxquelles il participe. Et il fait un petit compte-rendu de sa COP en lien avec nos politiques à nous. L'article, c'est « Les conservateurs devraient adorer l'idée d'une taxe carbone. Leur chef, Pierre Poilievre, se porte à la défense d'entreprises qui ne souhaitent même pas être défendues. » Alors, il explique « En route depuis Dubaï vers Québec, je réfléchis au fait saillant de ce qu'aurait été mon séjour à la COP 28, ma 14e. J'ai pu assister à de multiples conférences sur beaucoup de sujets. Identifier ce qui en ressort n'est pas si aisé. Toutefois, une chose m'a frappé, le fait que des industriels réclament une taxe carbone. Non seulement entendre dire par de multiples acteurs, dont le directeur général de Rio Tinto et un représentant de Suncor, qu'ils ont besoin d'un prix sur le carbone et qu'ils le souhaitent, soumettre toutes les entreprises aux mêmes contraintes, c'est pour eux l'unique façon de créer un équilibre entre elles. Et elles pourront ensuite se distinguer par leur créativité dans leur façon de répondre à une nouvelle contrainte qui leur sera imposée, la taxe carbone. En tout cas, c'est intéressant. Il défend, il explique que là-bas, les industriels du pétrole défendent l'idée de la taxe carbone au Canada. Donc, on comprend mal pourquoi le Parti conservateur veut l'annuler alors que les industriels eux-mêmes la réclament. Un autre article intéressant aussi que je... Ah oui, en passant, Jean Nollet, on va essayer de l'avoir à l'émission là, en janvier pour qu'il nous fasse un petit topo, un petit compte-rendu de la COP 28. Ça va être une entrevue intéressante. Dans le même numéro du Devoir, la même page, un article de François-William Croteau, qui lui aussi est très intéressant. J'aimerais l'avoir en entrevue. On va voir en janvier. Là, je suis en train de lire son livre, là, S'adapter, qui nous parle du municipalisme avec une perspective écologique. Alors que la 28e conférence des partis COP s'achève, la prochaine édition s'annonce déjà, fruit d'un cycle incessant et vertigineux. Ces sommets sur les changements climatiques s'enchaînent à un rythme étourdissant, nous plongeant dans une spirale d'engagement tiède, souvent non honorée, malgré les applaudissements de circonstances qui ponctuent chaque réunion internationale. Depuis la création du groupe en 1988 du GIEC, après 28 rencontres, le scepticisme semble la seule réponse naturelle à l'inefficacité flagrante des mesures concrètes prises jusqu'à présent. Il devient évident que notre confort pèse lourd dans la balance. Les changements impératifs pour nous assurer un futur durable sont perçus comme étant trop exigeants pour être véritablement envisagés avec le courage et la détermination nécessaires. En tout cas, un article intéressant de M. Croteau dans le Devoir de mercredi, page A7. Il y a aussi dans le Devoir de jeudi hier, dans le fond, c'est un petit compte-rendu de la COP, l'inévitable sortie des énergies fossiles évitées. Ce qu'il faut retenir des COP, c'est que on a d'abord le rapport du GIEC qui est sorti l'an dernier. Puis dans le rapport du GIEC, on ne peut pas donner de directives au gouvernement. Alors, c'est seulement qu'un état de la situation. Et évidemment, quand on lit le rapport du GIEC, on se rend compte que le principal problème, c'est la consommation des énergies fossiles. Mais On ne peut pas, dans les rapports du GIEC, ne peut pas mentionner « on doit réduire la consommation des énergies fossiles ». C'est mentionné indirectement. On voit d'où viennent les émissions. Il faut réduire nos émissions, ce qu'on dit, il faut réduire nos émissions. Alors, à la COP, c'est là que les solutions arrivent. C'est là où on discute des solutions. Et aussi incroyable que ça peut sembler, c'est à cette COP-ci, la première fois qu'on a réussi dans la déclaration finale qui est approuvée par toutes les nations, c'est la première fois qu'on a réussi à inscrire le mot « énergie fossile ». Et de peine et de misère, parce qu'il y a toujours eu des blocages. Et cette fois-ci, on a réussi à le mentionner en disant « Ah, il va avoir une transition qui suppose une diminution de la consommation d'énergie fossile », mais c'est même pas explicitement dit. Mais en tout cas, c'est quand même surprenant qu'on ait réussi à le faire, d'autant plus que la COP se tenait à Dubaï, les Émirats arabes unis, qui sont un grand producteur de pétrole. Le président de la COP était le président de la compagnie pétrolière principale des Émirats. Et malgré tout, on a réussi ça. Alors, c'est ça. L'inévitable sortie des énergies fossiles évitée. Les pays signataires de l'accord de Paris se sont toutefois engagés pour la première fois à favoriser une transition hors des énergies fossiles. Même si l'on sait depuis plusieurs années que les énergies fossiles alimentent le dérèglement du climat qui menace l'humanité, la Conférence climatique des Nations unies est seulement parvenue cette année à inscrire la nécessité d'une transition hors du pétrole, du gaz et du charbon, un gain âprement dénégocié et salué par plusieurs, mais insuffisant pour infléchir la trajectoire de réchauffement sur laquelle se trouve la planète. Au terme de négociations qui ont dépassé leur limite fixée pour la fin de cette conférence, le président de la COP, Sultan Al-Jaber, est parvenu à dénouer l'impasse qui perdurait sur le thème central des tractations, les énergies fossiles. Au lieu d'éviter de nommer l'éléphant dans la pièce, comme on l'a fait depuis des années, il a opté pour une formule qui a le mérite de pointer du doigt la responsabilité de notre dépendance au pétrole, au gaz et au charbon dans l'augmentation dangereuse des températures mondiales. Mais le vocabulaire choisi évite aussi de tracer la voie à la pourtant nécessaire élimination de ces énergies, une option rejetée d'emblée par plusieurs pays producteurs. Alors, le chemin, il va être difficile. On est loin d'être arrivé à destination de ce côté-là. Ensuite, il y a un article intéressant aussi dans Le Devoir de mardi qui parle de la Belgique. C'est que la Belgique, condamnée par la justice à réduire radicalement ses GES, c'est que les Belges ont... Il y a eu des groupes écologiques locaux qui ont poursuivi le gouvernement belge parce qu'il n'avait pas atteint ses cibles. Et puis, ça a fonctionné. Et le gouvernement belge doit se conformer là, à un ordre de la Cour. Alors, solution peut-être pour nos gouvernements locaux. Dernière chose, dans le dernier Philosophie magazine qui est en kiosque, qui est encore une fois un numéro intéressant, « La vie a-t-elle un sens? » C'est le titre, le thème du Philosophie magazine. Il y a un article sur Pascal qui a été écrit par Edgar Morin. Edgar Morin qui publie encore, à 102 ans, un article sur le philosophe Pascal, qui est intéressant. Edgar Morin, un de ses philosophes préférés, c'est Pascal, il en parle beaucoup. Alors, il y a un article sur Pascal dans le dernier Philosophie magazine. Et dans la revue de livres, un livre qui a attiré mon attention, que je vais essayer de trouver pour en parler aussi au retour en janvier, parce que ça tombe dans notre thématique. C'est un livre, le titre, c'est « Comment devenir un philosophe grec ». Et voici ce qu'on en dit. En son temps, Pierre Hadot, dont on parle régulièrement à l'émission, avait déjà fait valoir que la philosophie antique constituait à l'origine un certain art de vivre, à la différence d'une philosophie moderne davantage orientée vers la transmission d'un contenu doctrinal. Ce qu'on disait que dans l'Antiquité, la philosophie, c'était un mode de vie. C'est devenu aujourd'hui plus une discipline qui est orientée vers la transmission d'un contenu doctrinal. Quand il s'agit d'acquérir ou de fortifier la maîtrise de soi, les discours risquent même de s'avérer vains s'ils ne se traduisent pas en actes. Alors, c'est ça, le livre, c'est Marc-Antoine Gavré et Gaël Jean-Marc. Gavré, c'est G-A-V-R-A-Y. Prennent donc Pierre Hadot au mot dans « Comment devenir un philosophe grec ». Ils proposent une série d'exercices qu'ils ont déjà pu tester auprès de différents publics, notamment dans les ateliers qu'ils animent dans le cadre du certificat en pratique philosophique qu'ils ont créé en Belgique à l'Université de Liège. Vous souhaitez devenir stoïcien? Essayez de tenir un journal ex-time, un journal où seuls les faits comptent et nullement les représentations que nous nous en faisons. Cet outil vous aidera à prendre la mesure d'une certaine propension à dramatiser la réalité et donc à dégonfler l'affect. Durée estimée 10 minutes par jour. Alors c'est ça, c'est une série d'exercices qu'il nous propose, comme Pierre Hadot avait expliqué avec ses exercices spirituels que les philosophes de l'Antiquité pratiquaient. Donc, livre qui a attiré mon attention, dont on parle dans le dernier numéro de Philosophie Magazine, « Comment devenir un philosophe grec ». Alors, on prend une petite pause et je vais vous parler d'un petit livre là, qui est en lien avec notre thématique aussi. « Travailler moins ne suffit pas », c'est aux éditions Éco-Société, par Julia Posca. Alors, pause musicale, puis on revient avec « Travailler moins ne suffit pas ».
Trop d'exigences ou trop de performances, je cultive la nonchalance. Et quand à fond ça gaze, je ne suis pas kamikaze. Sur la détente, je mets l'emphase. Là-bas et hautain, il faut que je saute sans faire de faute. Là-bas et hautain, il faut que je saute. C'est le gros bon sens qui me l'impose. Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose? Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose?
On s'y oppose?
Pour trop de dopamine et trop d'adrénaline, j'ajoute de la mélatonine. En forçant l'analyse, c'est que moi je maîtrise la façon de sauver la mise. La barre est haute, il faut que je saute. Je saute pour plaire aux autres. petit quelqu'un qui s'y oppose. Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose?
On s'y oppose.
Alors, c'était Jean-Marc Aurel, une petite pause de son album, justement, une petite pause. Donc, ça, le livre de « Travailler moins ne suffit pas » de Julia Posca, P-O-S-C-A, aux éditions Éco-Société. Ça vient tout juste d'être publié. Il y avait un petit compte-rendu dans le Devoir de samedi dernier, dans le cahier culture. Une petite chronique de Louis Cornelier. Il dit on peut, il parle de l'auteur, Madame Posca, il dit on peut, dit-elle, s'émanciper dans le travail à condition que ce dernier ait du sens, ne soit pas accablant, offre une autonomie décisionnelle, soit reconnue par les autres et ait une utilité publique. Or, aujourd'hui, pour trop peu de personnes, le travail est une source de stress. Pour trop de personnes, le travail est une source de stress délétère endurée par nécessité. On supporte la semaine de travail en attendant de pouvoir s'épanouir dans la sphère privée, la plupart du temps en s'adonnant à une consommation compensatoire. Cette spirale nourrit un modèle capitaliste déshumanisant et destructeur de la planète. Chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, et membre du comité de rédaction de la revue Liberté, Julia Posca est une femme de gauche animée par le souci de la justice sociale et de l'environnement. Dans cet essai et dans cette perspective, elle remet donc en question les modalités et les finalités du travail afin que ce dernier, en tant qu'une des activités centrales de nos vies, soit plutôt source d'épanouissement et de gratification. Elle parle aussi de la réduction du temps de travail. Puis ça, c'est un dossier que nous, au comité de Saint-Pierre volontaire, on a toujours mis de l'avant, la nécessité de travailler moins. Parce que bien souvent, on travaille pour, comme on dit, pour une consommation qui n'est pas nécessaire, une consommation ostentatoire, comme M. Cornelier dit. Et cette consommation-là, c'est comme une forme d'esclavage. Alors, il faut se libérer. En travaillant moins, on peut se libérer. Et ça nous permet de nous donner du temps pour... philosophie, pour vivre en philosophe, si on veut, pour bien vivre. Alors, elle parle, au début du livre, de la réduction quand même du temps de travail. Même si elle dit « travailler moins ne suffit pas », c'est quand même un pas dans la bonne direction, la réduction du temps de travail. Puis on le voit avec aussi le télétravail, la réduction de l'esclavage, parce qu'on... Le télétravail permet à beaucoup de travailleurs de sauver du temps, finalement, en travaillant à partir de chez eux. Alors, les arguments en fonction de la réduction de la semaine de travail, bien des défenseurs de la semaine de 4 jours appuient aujourd'hui leurs arguments sur des constats à propos de la condition salariale actuelle. Face à un rythme de vie qui s'accélère, une norme de consommation sans cesse renouvelée qui contraint au travail et à l'endettement, au culte de la performance qui pousse les individus à chercher à se dépasser dans toutes les sphères de leur vie, on parle de plus en plus de réduction du temps de travail comme un remède efficace. Anna Coote, Aiden Harper et Alf Sterling, elle cite une recherche qui a été faite, des chercheurs associés au think tank britannique de gauche New Economics Foundation ont rassemblé dans un bref essai paru en plein cœur de la pandémie de COVID-19 les arguments en faveur d'une réduction du temps de travail. Un des effets observables de la diminution des heures de travail qui sert d'argument principal à la mesure est l'amélioration de la santé et du bien-être des travailleurs et travailleuses, tout comme l'excès de travail et le stress généré par le rythme du travail entraînent des risques pour la santé. La réduction des heures passées au travail va de pair avec une meilleure condition physique et mentale. De fait, les expériences de semaines réduites menées jusqu'ici s'accompagnent toutes d'une diminution du stress des employés, de l'amélioration de la qualité de leur sommeil et, de manière générale, de leur état de santé. Ce faisant, le nombre d'absences pour maladies ou obligations familiales diminue, ce qui a un effet financier positif pour les organisations ainsi que pour la société en général, qui assume à travers les services publics les coûts liés aux maladies professionnelles. Les motivations au travail s'en trouvent ainsi aussi renforcées. Dans les périodes de chômage élevé, la mesure permet en outre une meilleure distribution du travail et des revenus au sein de la population et conséquemment une réduction des dépenses sociales liées au chômage et à l'aide sociale. Historiquement, c'est d'ailleurs lorsqu'un tel contexte s'est présenté que les travailleurs et travailleuses ont davantage adhéré à l'idée. Un peu plus loin, elle nous parle, elle dit, « Or, à l'échelle individuelle, passer quelques heures de moins par semaine dans des emplois abrutissants ou aliénants risque, c'est ça, là, elle fait une nuance, risque de ne pas améliorer la satisfaction au travail. Cela pourrait garder bien vivant le désir pour une consommation compensatoire ou encore accentuer la fracture entre le temps de travail et le temps libre. Pour celles et ceux dont l'emploi est composé d'une multitude de tâches bidons, réduire la semaine de travail les soulagerait en partie, mais leur emploi demeurerait tout aussi insignifiant et inutile. Seulement, ils occuperaient une plus petite portion de leur semaine. Si la consommation demeure le mode principal de compensation ou si la possibilité de développer des habiletés techniques, sociales ou autres en dehors du travail n'est réservée qu'à ceux et celles qui ont le plus de ressources et s'il n'y a pas de cadre institutionnel pour développer ses aptitudes, alors il faut craindre que, pour bien des gens, ce temps libéré ne puisse constituer une base solide pour l'émancipation. C'est certain que ce qu'on dit, c'est que c'est la pratique de la simplicité volontaire, en simplifiant sa vie, puis en prenant du temps pour réfléchir sa vie, devenir philosophe. C'est ce que ça permet de faire, de réduire son temps de travail. Mais évidemment, si les gens sont tellement abrutis par leur emploi qu'ils n'arrivent pas à se retrouver, bien, c'est un problème. Alors, c'est pour ça qu'elle dit le travail. Travailler moins ne suffit pas. Elle nous parle aussi évidemment, de la consommation. Pour terminer, là, un peu plus loin, elle dit... Comme nous le disions plus tôt, consommer est devenu pour les travailleurs et les travailleuses des sociétés capitalistes une manière de compenser pour la pénibilité de leur emploi et pour la subordination salariale à laquelle ils et elles sont contraints. Ce consumérisme est bien entendu aussi à la base de la croissance de l'économie. En titillant sans cesse les désirs des consommateurs et des consommatrices, on s'assure une demande constante et, si tout va bien, des profits à l'avenant. La publicité se charge de faire fonctionner cette mécanique économique redoutable. Alors, c'est un petit livre que je vous recommande. Intéressant. Réflexion sur la réduction du temps de travail et aussi sur le travail en soi. Aux éditions Éco-Société, Travailler moins de ne suffit pas de Julia Posca. Alors, on prend une autre petite pause musicale. Puis au retour, je veux vous parler de Épithète.
Une autre journée qui se lève après une courte nuit de trêve pour les bons citoyens. Le travailleur va travailler, l'homme d'affaires va s'affairer, le bon à rien fera rien. Le politicien va mentir, l'homme paisible va en rire, le mourant va mourir. L'alcoolique aura mal aux cheveux, le dépressif sera malheureux. Quelle merveilleuse journée ce sera sur
enfant. Tout se complique lorsque le blues, la vie. Maudit, maudit lundi. Le travail, la routine, le train-train quotidien. Trop frais l'hiver, trop chaud l'été.
Alors, c'était les Cowboys Fringants. la pièce « Une autre journée » qui se lève dans leur album « L'expédition ». Alors, c'est ça. Épictète, c'était un philosophe qui était célèbre dans l'Antiquité. Mais il n'a pas écrit, il n'a rien écrit. Lui, comme Socrate, d'ailleurs, les grands philosophes n'écrivaient pas souvent. C'était un enseignement oral qu'il y avait. Il y avait des disciples, des gens qui venaient étudier avec lui. Et bon, l'empereur Adrien avait une grande admiration pour Épictète. Puis, c'est grâce à un autre notable, un Romain, qui était, lui, une espèce de ministre de l'empereur Adrien, qui, dans ce temps-là, souvent, les gens qui étaient proches des empereurs comme Adrien ou Marc Aurèle savaient que c'était une façon aussi d'étudier, devenir philosophe, étudier la philosophie. C'était une façon qui pouvait les aider à être appréciés de l'empereur. Donc, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais un des bras droits, disons, de l'empereur Adrien s'appelait Arien. Et Arien, c'est lui qui permet aujourd'hui qu'on ait des écrits sur Épictète. Arien a pris des notes pendant ses rencontres. Il allait suivre quand il a pris sa retraite, il allait suivre les enseignements d'Épictète. Aussi, Arien, c'est un écrivain célèbre aussi. Dans la Rome antique, il a écrit plusieurs livres, dont deux livres importants qui sont les Entretiens d'Épictète et le Manuel d'Épictète. Le Manuel d'Épictète, c'est un peu comme un petit livre, un peu comme les Pensées de Marc Aurèle, que Marc Aurèle s'était écrit à lui-même pour... c'était comme un résumé de ses enseignements que lui aussi a suivi, les enseignements de... les enseignements des stoïciens, parce que aussi Épictète ici était un stoïcien. Alors, le manuel, c'est un petit livre que Arien a écrit qui résume un peu concrètement la pensée d'Épictète. Puis c'est une bonne partie du manuel vient des entretiens. Alors, les entretiens, c'est beaucoup plus volumineux. Et bon, malheureusement, semblerait qu'on, comme tous beaucoup des philosophes de l'Antiquité, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, des volumes qui ont été perdus, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites concernant Épictète, ça a été perdu. Donc, il nous reste ça au moins, le manuel. Et pour ceux qui s'intéressent, le manuel, on peut l'avoir là aux éditions des Mille et une nuits, ça coûte à peu près 4-5 $. Alors, c'est pas cher. Ou, là, il y a une très belle édition qui est sortie en 2019, qui est un peu plus cher, c'est dans les 40 $, mais c'est là, on a les entretiens et le manuel. C'est aux éditions Les Belles Lettres. Alors, je vais vous lire un petit extrait de cette édition-là au début. On dit, comme il arrive pour la plupart des grands philosophes de l'Antiquité, nous ne savons pas grand-chose sur la vie d'Épictète. Les dates de sa naissance et de sa mort nous sont inconnues. Il a dû naître aux environs de l'an 50 à Hiérapolis, aujourd'hui Tambouk-Kalessie, une des cités les plus considérables de la Phrygie méridionale. Il était d'une humble origine, esclave peut-être, fils d'esclave. On a même prétendu, non sans quelque vraisemblance, que le terme d'Épictète n'était qu'un simple adjectif formé du nom de son pays natal ou une épithète qui signifie « esclave ». Après avoir passé ses premières années à Hiérapolis, il fut amené à Rome et mis au service d'un affranchi de Néron, Épaphrodite. Ce maître ne devait pas être tendre puisque Musonius... on ne sait pas si c'est vrai, c'est des légendes, là, mais on dit que Musonius Rufus, qui était le propriétaire de Épictète prenait soin de préparer Épictète à affronter les désagréments de sa condition d'esclave. Ce qui est sûr, c'est que notre philosophe n'avait pas beaucoup d'estime pour sa valeur morale, comme en font foi les deux anecdotes qu'il apporte sur son compte. Des témoignages anciens voudraient que même Épaphrodite eût poussé la barbarie jusqu'à briser la jambe de son esclave. Épictète était en effet boiteux et en plaisantait. Mais Suidas attribue cette infirmité à une cause plus simple. Elle serait les conséquences de rhumatisme. La sagesse est peut-être de se rallier à cette explication. Il y avait des légendes là, qui, sur les philosophes. On s'entend qu'Épictète, dans l'Antiquité, c'était une célébrité. J'ai aussi, je vais vous lire un extrait du livre de Jacques Sénécal là, qui parle de tous les philosophes. Mais avant ça, j'ai un extrait aussi de Philosophie Magazine, c'est septembre 2022, dans lequel on a un petit livre. Ils ont toujours des petits livres dans les Philosophie Magazine, les entretiens d'Épictète, et on parle d'Épictète. Qui est un stoïcien. Alors, on parle on a quelques extraits aussi de ce que Épictète donnait comme enseignement. Alors, on dit confondre... Ça, c'est l'idée de base d'Épictète. Confondre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas nous condamne au malheur, avertit Épictète. Si nous souffrons, c'est que nous prenons pour mauvaises des choses qui, en fait, ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais indifférentes. Il ne tient donc qu'à nous d'être heureux. Alors, c'est d'ailleurs le premier enseignement qu'on a dans le manuel, au tout début. Il dit, voici, le manuel commence comme ça. « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. Tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Donc, rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave, et pour un bien propre, ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté. Tu en voudras aux hommes comme aux dieux. Mais si tu ne juges, tiens que ce qu'il est vraiment et tout le reste étranger, jamais personne ne saura te contraindre ni te barrer la route. Tu ne t'en prendras à personne, tu n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré, personne ne pourra te faire de mal et tu n'auras pas d'ennemis puisqu'on ne t'obligera jamais à rien pour toi qui soit mauvais. Alors, c'est ça le manuel. Il nous reste quelques minutes. Comme je disais, je vous lis un petit extrait du livre de Jacques Sénécal, notre collaborateur qui va revenir avec nous en janvier. Et son petit livre, Le bonheur philosophe, malheureusement, je pense qu'il n'est plus trouvable. Là, mais en tout cas, si vous arrivez à le tomber dans l'usager, c'est un beau petit livre qui présente plusieurs philosophes. Alors, voici ce qu'il a dit sur Épictète. Épictète a vécu dans le premier siècle de l'ère chrétienne. L'empereur Hadrien l'a connu et admiré. Marc Aurèle, successeur à la tête de l'Empire romain, a été son plus célèbre disciple. Le maître le plus puissant du monde devint le disciple d'un esclave, fils d'esclave. N'est-ce pas la démonstration qu'en philosophie, les maîtres et les esclaves se confondent parfois? Épictète, totalement détaché des biens matériels et des honneurs, pratiquait la sagesse qu'il enseignait, et, comme Socrate, il n'écrivit rien. Un de ses disciples, alors je vous en ai parlé, Flavius Arien, qui était notable de la haute aristocratie, qui lui aussi en suivait les enseignements d'Épictète, rédigea et publia l'enseignement de son maître, le manuel, un résumé de cours qui, aujourd'hui, aurait l'aspect d'un livre de petit format qui va à l'essentiel de ce qui s'achète parce qu'il n'est ni cher ni épais. Ce manuel deviendra, pendant des siècles et des siècles, le livre de chevet de plusieurs grands personnages, qu'ils fussent rois ou philosophes, célèbres ou anonymes. Lire Épictète est intensément fortifiant. Son enseignement, constitué de préceptes simples et proches de la vie quotidienne bien examinée, touche quiconque réfléchit un tant soit peu, car en plus d'être raisonnable, il est pratique. Sa philosophie est très éloignée des théories absconses et stériles des grandes écoles, propose une manière de vivre, une éthique, sinon une technique de vie heureuse. Le stoïcisme d'Épictète, inspiré de celui des vieux maîtres grecs qui se définissaient comme des disciples de Socrate et des philosophes cyniques, est une forme de volontarisme, la vertu qui dépend de moi. Ma volonté est, dans sa pratique, un bonheur. La vertu, c'est la vigueur, l'aplomb de l'impassibilité, la véritable maîtrise de soi. Car se laisser mener par les biens extérieurs, par les faux désirs, par les pressions sociales, des modes et des conventions, est un signe de faiblesse et d'esclavage. Ne pas avoir le pouvoir de se diriger soi-même, c'est l'impuissance, le dérèglement, bref, le malheur. La puissance, la force ou la vertu proposée par Épictète est un mode de vie qui exige de la fermeté, de caractère et de la solidité de la part d'une volonté résolue. Il est difficile de ne jamais se laisser à ses émotions, ses passions, ses regrets, son ego, et de tenir pour secondaire les aléas, les épreuves, le poids de la vie et la routine. C'est difficile de faire face à tous les revers, les échecs et toutes les humiliations avec une âme sereine et humble. Là où il y a humilité, il n'y a plus d'humiliation. Mais les conseils d'Épictète nous aident à prendre les choses avec une certaine hauteur, à les prendre avec philosophie. Alors voilà, c'est la fin de l'émission. Et on prend congé pour 2 semaines. On aura des reprises dans les 2 prochaines semaines. Puis on revient en janvier pour poursuivre des émissions dans toute simplicité. Alors je vous souhaite bon temps des fêtes, un temps des fêtes simplicitaire. Alors pas d'abus, pas d'exagération dans la consommation. Puis essayons de trouver des... On a déjà publié, là, le comité, un texte sur le Noël simplicitaire, je crois, qui est disponible sur notre site Internet. Alors, je vous recommande un Noël de simplicitaire. Alors, bonne fête et on se revoit en janvier.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
L'opération Panier de Noël du Pignon Bleu bat actuellement son plein en partenariat avec Métro Ferland. Cette initiative de chez nous vise à offrir cadeaux et denrées à 200 familles de Québec qui en ont bien besoin, particulièrement en cette année difficile. Le Pignon Bleu invite toute la population à faire un geste d'entraide en contribuant financièrement en ligne à pignonbleu.org. Plus que jamais, votre don va faire la différence. L'équipe du Pignon Bleu vous remercie et vous souhaite de très joyeuses fêtes.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public?